nous devons abandonner ce point de vue instrumental sur la mer et l'eau. Il faut voir en la mer une vie. Corinne Pelluchon, philosophe. Corinne Pelluchon développe une philosophie de la corporéité qui met l'accent sur notre vulnérabilité et notre dépendance à l'égard de la nature, des éléments et des autres vivants. En 2020, Corinne Pelluchon, qui enseigne à l'université Gustave Eiffel, recevait le prix Günther Anders de la pensée critique pour l'ensemble de ses travaux. Le 4 novembre 2024, elle présentait son ouvrage « L'être et la mer ». Vous êtes au Forum D du campus de la Plaine de l'ULB.
Merci, bonjour et désolée pour le retard. Donc je vais vous présenter ce livre. Donc d'abord une petite introduction parce que c'est assez inédit d'associer l'écologie à l'existentialisme d'une part et ensuite d'associer l'existentialisme écologique à la mer d'autre part. Alors quelques propos introductifs pour rappeler ce qu'est l'existentialisme et moi ce que je fais de cette tradition, pourquoi je la trouve actuelle et comment je la transforme un petit peu. Et alors d'abord l'existentialisme, eh bien c'est un courant de pensée qui se caractérise certes par une diversité de représentants et de représentantes, en France Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, mais également c'est né d'abord au Danemark avec Kierkegaard, et il y a beaucoup d'Allemands, Jaspers, Heidegger, donc il y a des pensées diverses, mais il y a quelques idées centrales défendues. Et parmi ces idées, qui sont des couples de notions, il y a la prise au sérieux de la déréliction de l'humain, du fait que l'humain ne s'est pas mis au monde seul, qu'il n'est pas le fondement de son existence, il y a une sorte de délaissement. Et cette contingence, cette non-nécessité de l'humain, donc qui caractérise sa condition, souligne l'importance de la liberté. L'existence précède l'essence, lance Sartre, et ça veut dire que le sens de mon existence n'est pas donné, je dois lui conférer un sens par mes choix. Donc contingence et liberté, indétermination du sens et responsabilité, les deux premiers couples de notions, puis absurde sentiment que, eh bien, un jour, ma vie sera finie, une vie, donc, comme je le disais tout à l'heure, que je n'ai pas amenée moi-même, qui n'est pas le fruit de ma décision, j'ai été mise au monde à ma naissance par d'autres, mais cette vie se terminera, tout sera fini un jour et la mortalité va être pensée de manière très profonde par Kierkegaard, Heidegger, et qui diront que peut-être seule la conscience de ma mortalité est la clé pour avoir une vie authentique et sortir de l'aliénation. J'en reparlerai, vous verrez, dans le contexte de la crise écologique. Donc, prise de conscience de la mortalité, donc d'une déréliction, d'un abandon radical et non pas nihilisme mais au contraire peut-être authenticité voire engagement, absurde et engagement. Donc vous voyez, liberté, contingence, indétermination du sens, responsabilité, absurde, engagement, mortalité, authenticité. Donc ça c'est vraiment important et l'intérêt de l'existentialisme c'est de prendre au sérieux non seulement la déréliction de l'humain mais son ambivalence, le caractère à la fois abyssal et sublime de l'existence humaine. Alors justement, j'ai considéré que notre situation politique, géopolitique et écologique rendait l'existentialisme très actuel, précisément parce que nous vivons des périodes d'incertitude et de grands bouleversements divers, géopolitiques et aussi liés à la possibilité de l'effondrement, lequel a sans doute déjà commencé, et donc des pans entiers de notre éducation, de nos certitudes s'effondrent. Et pour encaisser cela, il y a justement l'existentialisme qui est un courant qui nous demande de regarder le sans fond de notre existence, de ne pas nous accrocher à de vaines illusions, peut-être une ressource très intéressante pour endurer justement l'indétermination, l'absurde, et voir comment faire de cette indétermination et de cet absurde une raison de s'engager et de ne pas faire n'importe quoi. Alors le deuxième intérêt que j'ai trouvé à l'existentialisme, c'est que il est fondé sur une philosophie donc de l'existence qui prenait certes au sérieux non pas la nature humaine mais la condition humaine. Il y a une unité de la condition humaine, mais il y a des pans entiers de notre vie qui sont socialement construites et dépendantes des cultures. Mais c'est vrai que si vous prenez Sartre, Heidegger et tous les autres, ils ont surtout insisté sur la liberté, sur la condition humaine pensée dans une certaine extériorité comme projection, le projet étant une notion centrale. Ça veut dire se jeter en avant de soi, cette idée que bien, ce sont mes décisions, mes projets qui font que je donne des contours à ma subjectivité, que j'existe. Hein, le mot exister veut dire sortir de soi. Bon. Donc c'est l'idée quand même d'une affirmation de l'humain comme se dégageant de l'immanence. Alors justement, bien moi, j'ai depuis plusieurs livre depuis plus de 16 ans, développer une philosophie de l'existence, de la condition humaine, qui prend au sérieux la corporéité, la vulnérabilité, mais surtout, pour la question qui nous intéresse, la matérialité de notre existence, le fait que nous mangeons, que nous respirons, que nous sommes dépendants des autres, humains et autres qu'humains, des éléments, l'eau, l'air, des aliments et des écosystèmes. Autrement dit, quand on prend au sérieux la matérialité de notre existence, prenons l'exemple de l'incorporation, de l'alimentation, nous avons toujours un impact sur les autres, y compris les animaux, et c'est vrai que ça jetait une lumière sur notre habitation de la Terre. La philosophie de l'existence prenant au sérieux notre corporéité, le fait que nous marchons, que nous vivons, que nous respirons, aller vers une philosophie de l'habitation de la Terre, ce qui est une autre manière de parler de l'écologie. L'écologie, logos, raison, oikos, de la maisonnée commune, penser l'humain sans le couper de la nature, mais en le pensant comme dans sa condition terrestre, comme habitant de la terre et comme cohabitant ou devant cohabiter avec d'autres humains et autres qu'humains. Donc, cette philosophie de la corporéité que j'avais développée de livre en livre avait une vocation écologique, à la fois dont j'ai tiré les conséquences en éthique, mais également au niveau politique, puisque dès qu'on pense l'association politique à partir d'un sujet qui mange, qui respire, qui vit toujours de nourriture et qui est toujours en contact, qu'il le veuille ou non, avec les autres, humains et autres qu'humains, eh bien, la protection de la biosphère finie et conditions de notre existence et la justice envers les générations futures et les animaux deviennent des finalités de l'État qui s'ajoutent aux finalités classiques du politique, c'est-à-dire à la réduction des inégalités entre nous et à la sécurité. Mais donc l'écologie, dans cette philosophie de l'existence qui insistait sur notre condition terrestre, aboutissait à mettre l'écologie au centre et à ne pas la couper de l'humain, à ne pas faire qu'on errait à choisir entre d'un côté les humains et de l'autre côté la nature. Bon. Mais donc du coup, alors c'était une sorte de coexistentialisme. Mais du coup, j'avais quand même oublié une chose majeure, et je vais en parler, c'est-à-dire que j'avais travaillé sur notamment l'alimentation, l'incorporation, les éléments, mais j'avais encore cette imprégnation de mon imaginaire par un imaginaire solide. C'est-à-dire que j'avais oublié finalement cet élément dont nous vivons et dont nous sommes constitués, l'eau, mais qui nous est étranger, où nous ne pouvons pas vivre, du moins sans équipement. Et c'est donc un existentialisme très différent que je vais reconstruire, et je vais vous en parler en quatre points, qui modifie la tonalité, le climat de la pensée qui était celle des anciens existentialistes, lesquels étaient, un, anthropocentristes, s'intéressant pas trop à la réflexion sur les animaux, à part Merleau-Ponty, qui en plein, à la fin des années 40, lance que les animaux sont d'autres existences, mais les autres restent quand même centrés sur l'humain. Et puis deux, un existentialiste qui surtout pense notre appartenance au monde comme étant à partir d'un imaginaire solide où dans le projet c'est bien ça, on est d'un point à l'autre, on marche, il y a un côté volontariste. Or, au contraire, moi je vais fonder une sorte d'ontologie marine, liquide, qui va insister sur l'absence de frontières ou du moins sur le caractère poreux du lien entre passé, présent, futur, et à la place de l'être et le néant chez Sartre, l'être de moi qui est pris devant une sorte d'amour d'abîme, de vertige, et devant cet abîme, cette déréliction, ce sans fond de l'existence, il faut construire quelque chose de manière volontariste, hein. Eh bien moi, au lieu de mettre le néant, je vais mettre la mer, dont je vais souligner les multiples dimensions, à la fois maternelle, la mer, mais aussi la vie, la mort. La mer est associée dans la littérature et dans notre imaginaire à beaucoup d'ambivalence. Elle est à la fois ce qui est l'infini, mais elle est à la fois l'immémorial, mais elle est aussi à la, ce qui nous effraie, qui peut nous faire peur, puisque dès qu'on quitte le rivage, on peut craindre de se noyer. Donc ces multiples dimensions symboliques de la mer, je vais aussi en faire quelque chose. Et pour construire un existentialisme écologique, c'est-à-dire qui nous aide, une philosophie de l'existence qui nous aide à comprendre pourquoi, malgré toutes les informations dont nous disposons sur la question écologique, nous prenons pas tant individuellement que politiquement les mesures pour changer les choses et nous sauver finalement de l'effondrement, mais donc prendre au sérieux cette ambivalence humaine, voir quel courage peut nous aider à affronter cette situation, quelle contradiction explique que nous n'y arrivions pas, mais je vais quand même modifier dans sa couleur cet existentialisme qui sera pas solide mais qui sera imprégné par la mer. Et pour le dire vite, l'idée centrale, c'est partir en mer, c'est-à-dire cesser de voir la mer à partir de notre rivage, cesser de voir les autres vivants à partir de nous, mais au contraire, décentrer radicalement notre regard. L'éthique environnementale, les philosophies de l'écologie ont toutes voulu décentrer le regard et justement en n'étant que terrestre, en étant habité par un imaginaire terrestre et territorial, finalement, on ne parvient pas à décentrer radicalement son regard. Au contraire, les deux principes d'ontologie liquide ou marine que je vais proposer, c'est l'idée de l'unicité de l'océan, il n'y en a qu'un, et il est sa préséance sur les terres. C'est-à-dire qu'en regardant non pas l'océan comme une étendue d'eau bornant nos terres, je vais plutôt insister sur notre condition insulaire, sur le caractère fragile et submersible de la terre. D'ailleurs, c'est très beaucoup d'actualité avec les inondations actuellement. Et je vais essayer de, dans un premier point, de voir quelle structure de l'existence, quelle anthropologie philosophique s'ensuit d'une prise au sérieux de notre immersion dans un monde commun qu'est la mer, plus vieux, plus vaste que nous-mêmes et qui nous accueille à notre naissance, survivra à notre mort individuelle, mais qui est beaucoup moins solide que les anciens existentialistes et phénoménologues ne l'ont dit. Je vais dégager trois catégories centrales: flottaison, immersion, submersion. Et ensuite, on va plutôt travailler sur justement le rapport aux présences sonores, ou en tout cas aux créatures marines qui habitent les fonds marins. Et on va voir aussi comment la proximité avec ces êtres est un voyage qui nous décentre et nous fait comprendre aussi comment on peut voir le monde autrement que par la vue ou avec nos sens terrestres. Donc c'est vraiment aussi un décentrement du regard et une critique de l'anthropocentrisme. Le troisième point, ce sera la question de la mort. Qu'est-ce que la mort fait à la vie et qu'est-ce que le déni de la mort? En quoi le déni de la mort, et je vous expliquerai ce que ça veut dire précisément ici, eh bien, en quoi il pourrait être responsable du fait que l'écologie, alors même qu'elle est que l'inquiétude est là, l'inquiétude écologique, eh bien, pourquoi elle n'est pas désirable ou pas désirée? Pourquoi finalement il y a un lien entre la terreur de la mort et la répression de cette terreur et le fait que ça a un coût politique et écologique majeure? Et donc, il s'agirait non pas de bâtir un grand récit, mais de surmonter ce déni de la mort, ce qui n'est pas évidemment évident. Et puis, je finirai sur la question du droit international de la mer, sa grandeur et ses contradictions, qui sont peut-être liées justement à notre dépendance à l'égard d'un imaginaire encore terrestre, territorial, qui quadrille tout, la mer y compris, comme des champs, et qui en même temps fait que en haute mer, c'est un peu la loi de la jungle. Alors, premier point, c'est, si vous voulez, comment une ontologie marine, un imaginaire liquide et non terrestre et territorial, renouvelle la compréhension de l'existence humaine. Je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est une notion qui est dans mes livres depuis déjà longtemps, c'est pas l'être et le néant. Sans gommer la déréliction, le sentiment d'étrangeté qui nous saisit souvent dans l'existence, hein, c'est un peu la spécificité de l'humain, je montre quand même qu'il est immergé dans un monde. Il n'est pas jeté là dans un monde absurde. En venant au monde, et la naissance est fondamentale, je suis accueilli dans un monde plus vieux, plus vaste que moi, qui est fait des générations passées, présentes et futures. Passées parce qu'il n'y a pas seulement mes parents, il y a une lignée d'ancêtres derrière moi. Présent parce que je suis accueilli par une société et des êtres, et futur parce que les êtres futurs j'ai un impact sur eux, en particulier à notre époque avec les technologies actuelles. Eh bien, je suis accueilli par un monde plus vieux, plus vaste que moi, qui devrait survivre à ma mort individuelle et qui est fait des générations passées, présentes, futures et du patrimoine naturel et culturel. Autrement dit, j'arrive dans un monde plus vieux, j'en suis l'obligé, ce monde ne me connaît pas, et ma vocation comme être neuf, imprévisible, c'est de pouvoir préserver, voire transformer ce monde en inscrivant des œuvres ou des actes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un néant, mais il y a une épaisseur de notre existence individuelle. Et cette notion de monde commun, elle était vraiment centrale dans l'éthique de la considération, puisque la prise de conscience, l'intensification de cette conscience d'appartenir à un monde plus vaste que soi, de ne pas être seul au monde, avait un impact sur ma subjectivité et mes affects. Élargissait ma subjectivité, et c'était une certaine manière, une sorte de ouvrir à ce qu'on pourrait appeler une écosophie ou une conscience écologique, à la prise de conscience d'une appartenance à un monde commun dont on dépend, dont on est une part, et cela intensifiait le lien qu'on pouvait ressentir avec les autres vivants, donnant un sentiment d'appartenance et aussi neutralisant le désir de domination, de séparation. Donc c'était important. Mais du coup, je commence par une immersion. On n'est pas tout à fait tout seul. Et il y a un rapport à l'incommensurable, qui est ce monde commun. Mais, si vous voulez, dans mes livres précédents, j'avais décrit le côté positif de cette immersion volontaire ou non volontaire, conscientisée ou pas toujours, dans cette immersion dans un monde plus vieux, plus vaste que soi, et qui ouvrait donc à une conscience écologique. Là, je vais aussi en souligner le caractère effroyable et la possibilité de la submersion, de subir l'invasion de l'inconscient, de subir dans cette immersion dans un immémorial aussi, de sentir que ma vie, à la fois je prends conscience de mon appartenance à un monde plus vieux que moi, mais j'éprouve bien mon existence comme transitoire, comme éphémère. Je m'éprouve comme mortel. Et donc il y a, et on en reparlera tout à l'heure, il y a quelque chose d'éprouvant dans cette immersion dans le monde commun qui me renvoie à ma mortalité, à ma finitude, à mes limites, et qui justement peut me pousser à vouloir réprimer cette conscience de ma finitude, à vouloir réprimer le sentiment de radical abandon qu'elle génère, cela ayant un coût important, puisque la répression de sa finitude, on en reparlera, produit justement, ou en tout cas encourage des comportements de fuite, et plus précisément encourage le présentisme, mais aussi l'addiction à la consommation ou l'élection, ou en tout cas le fait de suivre des personnes, des personnalités qui font à croire qu'on participe à quelque chose de grandiose, parce que ce sentiment de devoir périr, eh bien, renvoie chacun à sa petitesse. Mais donc l'immersion dans le monde plus grand que nous, la submersion. Et pour moi, au lieu de parler d'un projet comme Sartre qui en fait quelque chose de très volontariste, il va même jusqu'à dire je suis ce que je fais, hein, donc en gommant un petit peu tous les ratages, les échecs, les choses inachevées qui pourtant nous constituent, eh bien moi je vais montrer que finalement nous sommes immergés dans un monde plus vieux, plus vaste que nous-mêmes, qui est lié aussi aux interprétations, à l'histoire, à l'immémorial, à des choses qui ne sont pas toujours consciente, et en fait une action, mais aussi un projet C'est une manière de découper dans ce monde plus vieux que soi un fragment, une interprétation. Donc chaque projet est une flottaison, c'est une manière d'émerger, de découper le monde, d'interpréter, mais c'est beaucoup moins solide et certain que le projet sartrien qui m'assoit, qui m'ancre et qui donne des contours à ma subjectivité. Et en fait, celle qui m'a beaucoup inspirée pour parler de tout cela, c'est Virginia Woolf, qui dans Les Vagues, un magnifique roman, souligne le caractère à la fois merveilleux, mais également déroutant, effrayant, de notre immersion dans la mémoire, dans l'immémorial, et le fait que chacun essaie de trouver un sens, qui est finalement comme une petite scintillation. Elle a cette image tout à fait étonnante de... elle dit « Je suis la nageoire argentée hein, qui fend les eaux hein. ». C'est-à-dire que c'est toujours un projet, finalement, pour nous, mortels, qui vivons dans un monde plus vieux que nous-mêmes, eh bien, c'est une interprétation, une manière d'émerger. C'est une manière de... pas arbitraire, mais c'est une interprétation. Ce n'est pas la vérité en soi. Donc ça, c'était vraiment les catégories majeures de cette... de cette ontologie marine et de son impact sur le plan de la condition humaine, de l'anthropologie. Donc, l'idée qu'on clôt pas le sens, alors que c'est vrai que l'existentialisme de Sartre repose sur une ontologie solide, un petit peu volontariste, où moi je défends plutôt une ontologie des fluides, où l'identité de chacun est narrative, où les frontières entre les êtres, ou entre le passé, le présent, le futur, sont, et le conscient et l'inconscient, sont beaucoup plus, sont gommés, un peu comme dans l'eau. Hein. Dans l'eau, il n'y a pas de frontières. Hein. Donc la catégorie de submersion, qui est majeure dans ce livre, est aussi... une manière de penser des événements, le désir, mais également la folie. Le philosophe Patochka parle de crue orgiaque, hein, quand les êtres sont débordés par eux-mêmes, parce qu'ils ont besoin, et ça c'est la spécificité de l'humain, de participer à quelque chose de plus grand qu'eux. Sinon ils s'ennuient, sinon ils ont l'impression que leur vie est étriquée. Mais ça peut à la fois amener à des choses magnifiques, mais ça peut conduire à un délire à plusieurs, hein, ce qui est une définition du nationalisme. Donc, il y a vraiment cette réflexion, parce que je trouvais que, et moi-même, mais je trouvais que dans les textes d'humanité environnementale, qui mesurent l'importance des écosystèmes pour nous, qui opèrent ce retour à l'expérience, que aussi la phénoménologie dont je viens opère, je trouvais qu'il y avait parfois... Il y avait des choses magnifiques pour mieux nous permettre d'aimer la nature, de comprendre, d'en prendre soin, et d'aimer aussi les écosystèmes, les autres vivants, mais on gommait le caractère contradictoire de l'humain et son ambivalence, le fait que quand il sait ce qu'est le bien, il ne le fait pas forcément, et qu'il y a il peut être vraiment tenté par la démesure. Alors qu'en écologie, on n'arrête pas de parler finalement de la sobriété, de la mesure. Oui, mais la prise de conscience des liens aux autres vivants ne suffit pas à rendre sobre, ne suffit pas aussi à éteindre le désir de domination et cette possibilité justement que les humains ont parfois de rechercher des choses pour se donner l'impression qu'ils existent et réprimer le sentiment de leur nullité et la peur justement de la mort. Alors avant d'en venir à ce point fondamental, je vais donc dans la deuxième partie insister sur le caractère non individualiste de l'existentialisme écologique, sur son caractère non anthropocentriste. Alors, il y a dans la philosophie dont je viens, la phénoménologie, vraiment une réflexion pour penser notre être avec le monde, je dirais. C'est-à-dire que le monde n'est pas comme un objet qu'on regarde, nous, un sujet. Il n'y a pas cette distanciation. Lévinas disait « la phénoménologie accomplit la ruine de la représentation », qui est un peu l'idée d'une distance entre le sujet et l'objet. Bon. Eh bien, moi, je vais radicaliser, pour ainsi dire, cette ruine de la représentation en développant une réflexion à partir de certains sens. J'avais déjà commencé avec l'alimentation et le goût, qui est un sens intérieur. Et là, je vais beaucoup insister sur l'ouïe, en particulier sur les présences auditives et sur la manière dont les dauphins, les créatures marines, hein, mais pas seulement, en tout cas, se repèrent spatialement. Et vous le savez, c'est plutôt par l'écholocalisation ou par par l'ouïe. Et donc du coup, au lieu de et le son dans le son est un sens où qui atteste mon enveloppement. Je suis le son est une immersion. C'est pas comme dans la vue. Le sens visuel est un sens de terrien où on met le monde à distance. Dans l'ouïe, je participe d'une manière où il y a une sorte, il y a vraiment une immersion. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. C'est pas seulement la passivité dont témoigne le son, c'est que le son remplit l'espace et me submerge. Et il y a en tant que sensation, le son est bien quelque chose du monde qui prend place dans le monde des phénomènes, mais Lévinas disait qu'il faut distinguer le son de la sonorité parce que le son, dans sa sonorité, dit-il, échappe toujours. Il troue le monde, il le crève. C'est un point de lumière où le monde éclate, dit-il, parce que le son déborde sa forme, il est retentissement, il est toujours en avant, il court vers l'avenir. Et donc, il est vraiment le contraire de la représentation. Donc ça, c'est vraiment l'idée, vous voyez, de décentrer le regard en allant voir comment d'autres vivants s'orientent dans l'espace, voient le monde, et bien c'est pas comme nous en quadrillant tout. Et j'ai beaucoup insisté dans ce livre sur la rencontre avec des animaux et des animaux en particulier marins, mais parce que je trouvais que, par exemple, chez Sartre, le rapport à autrui, okay, pour lui seulement le rapport humain, à quelque chose toujours de conflictuel. Vous vous rappelez dans L'être et le néant, quand il dit « je regarde par le trou de la serrure et tout d'un coup, quelqu'un me surprend et du coup, j'ai honte ». Effectivement, la honte est un sentiment qui est lié à la présence d'autrui. Et il dit « ma transcendance est transcendée, l'enfer, c'est les autres, parce que justement, ils me changent en otage, en esclave, parce qu'ils me prennent ma capacité d'être, ils me figent, ils solidifient mes possibles ». Et moi, je me disais, non, quand on rencontre un animal, et je décris les passages où Anita Conti, qui a beaucoup navigué, rencontre un squale, et dit, finalement, cette masse énorme fonçait pas sur moi. Il y avait une sorte de présence très curieuse. C'est plus de la curiosité, parfois un peu de crainte, que les animaux éprouvent pour nous. La prédation, c'est pas là, tout le temps. Ou alors, il faut vivre ce qu'a vécu Val Plumboot, cette écoféministe qui, 10 ans après, raconte l'épisode où elle a failli être mangée par un crocodile, où tout d'un coup, elle s'est vue dans les yeux du crocodile. Elle n'était pas Val Plumboot, la philosophe ou l'anthropologue, mais de la nourriture. Mais cette prédation, c'est une modalité du rapport à autrui et du rapport entre humains et animaux. Mais en général, c'est plutôt autre chose. Donc, j'ai travailler sur, il y a plusieurs rencontres avec des animaux, je ne vais pas marins, je ne vais pas les énumérer ici, et évidemment pour moi, les animaux, il y a une épiphanie de la baleine, c'est-à-dire que la signification des animaux est en excès sur leur phénoménalité, leur apparence ne dit pas tout, eux aussi, je n'en fais pas le tour, eux aussi ont un mystère, eux aussi me disent finalement tu ne me tueras point. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, j'ai essayé de faire des animaux marins, non pas seulement des objets, mais des sujets de l'éthique, et puis aussi des êtres dont la présence nous permet de voir que le monde tel que nous l'interprétons, eh bien, n'est pas le monde en soi, n'est qu'un fragment de l'univers que nous découpons en fonction de nos sens, en particulier du sens visuel et de notre équipement. Donc là, il y a vraiment, et c'est vrai que voyager dans les fonds marins, puisque c'est vraiment partir en mer, en haute mer, et voyager dans ces fonds où nous ne pouvons pas vivre sans équipement, c'est faire un voyage où on se rend compte que l'océan n'est pas muet. Il y a des présences sonores, des présences auditives, et les les présences auditives, à la manière dont on peut parler de chant, mais moi je préfère parler de présence auditive, en tout cas c'est pas des signaux, c'est plus que ça, des baleines, et bien peuplent cet univers qui est une polyphonie. Puis il y a aussi un boucan d'enfer, puisque nos bateaux, et tout ce qu'ils ont fait, toutes les activités industrielles, gênent énormément les baleines, les dauphins, les tortues. Il y a énormément de prises d'animaux marins qui meurent pris dans des filets, et puis aussi en raison des collisions. Donc du coup, si on décentre radicalement son regard et que nous nous voyons comme des terrestres, des terriens, mais sur une surface submersible, on ne peut pas non plus ignorer tout ce qui se passe dans la mer. Parce que la question, quand on travaille sur la mer, ce qui est étonnant, c'est que tous les drames sont invisibilisés. La pollution est invisibilisée. Pourtant, il y a ces gyres, c'est-à-dire ces montagnes de déchets terrestres et venus des bateaux qui circulent et qui sont énormes. Il y a les courants marins emportent tout. La pollution, justement, là, on ne peut pas la mettre dans un coin. Tout circule. Et au niveau, donc, partir en mer, c'est vraiment renoncer à cet imaginaire territorial terrestre qui est aussi l'imaginaire de la souveraineté, du quadrillage, de la conquête et de l'appropriation. Ça, c'est vraiment très important. On en reparlera quand il s'agira d'aborder la question du droit international de la mer. Mais en tout cas, c'était vraiment important de montrer que l'océan est une polyphonie peuplée de voix, de mammifères marins qui s'entre-expriment et qui expriment le monde. Il y a un seul monde. Encore une fois, comme chez Wexkul, à la fin de Mondes animaux et mondes humains, il dit qu'il y a une seule forêt. Mais pour celui qui abat les arbres pour faire des bois, pour l'enfant qui joue, pour le renard, c'est pas la même signification. Donc chaque vivant découpe le monde et chante sa mélodie, dit-il, en découpant un fragment du monde, en l'interprétant. Donc c'est vraiment là encore l'idée qu'on peut bâtir une pensée qui n'est pas seulement celle du perspectivisme où il n'y aurait rien de commun. Non, il y a un seul monde, un seul océan. Il y a et en même temps, il est vu à chaque fois de manière différente par les êtres, sans que une espèce est le monopole de l'interprétation. Donc il y a vraiment, ça rejoint ce que j'avais dit dans Les Lumières à l'âge du vivant, en plaidant pour un universalisme latéral. Je reprenais l'expression à Merleau-Ponty, qui en parle dans un texte qui est un hommage au voyage, un texte assez court en hommage à Claude Lévi-Strauss et à Marcel Mauss. Et au lieu d'avoir un universalisme surplombant venu d'une raison que finalement celle des humains et même peut-être celle de l'humain occidental, etc., eh bien, on ne renonce pas à des universaux, du moins des choses communes, mais chacune est éclairée de manière différente par des êtres, des existants, humains et autres qu'humains, qui interprètent le monde, qu'ils configurent d'une certaine manière, qui jettent une lumière particulière sur ce monde pendant le temps de leur vie et puis le temps que dure leur création. Et donc c'est donc ça. Alors là, et c'est vraiment important parce que la diversité n'enlève rien à la perception de notre communauté de destin, mais là aussi la communauté de destin, c'est une expression qu'on retrouve un peu, qui est un peu valise maintenant. C'est pas facile de comprendre qu'il y a une communauté de destin entre les êtres, surtout qu'ils ont quand même pas, c'est comme l'égalité, certains sont plus égaux que d'autres, quoi. Et du coup, en revanche, il y a une communauté négative, il y a la possibilité d'un naufrage commun qui à terme ne fera ni vainqueur ni vaincu. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai vraiment essayé de chercher depuis quelques années dans les ressources que donne l'Occident. Bien sûr, ce n'est pas les seuls, mais j'ai voulu trouver quelles ressources en la philosophie peut nous permettre de mieux comprendre les défis du présent et de les affronter. Et c'est ce que je vais dire en particulier en parlant de la question du déni de la mort. Alors, l'existentialisme, donc, quand même, a insistant sur la déréliction, sur la conscience qu'a l'humain de sa déréliction, son besoin aussi d'exister, de sortir de l'anonymat, d'être autre chose qu'une nullité, quoi. Eh bien, l'existentialisme accorde un rapport important, souligne l'importance de la mort, le rôle que la mort joue dans notre vie. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça fait que de pouvoir mourir, de savoir qu'un jour tout sera fini ? Donc, la mort étant la disparition du moi, de votre singularité. Alors, il y a énormément de textes qui sont bien connus, en particulier celui de Heidegger qui disait que la seule possibilité pour sortir du « on », d'une vie qui n'est pas à moi, hein, pour avoir une authenticité, « Eigentlichkeit », pour donner du sens à ce qui compte pour moi, ce serait, disait-il, de prendre conscience de la possibilité de l'impossibilité de mon existence, de la possibilité qu'un jour je ne serai pas là. Ce rapport à cette possibilité, ce n'est pas la fin de vie, c'est le rapport à la possibilité que je ne sois pas là, que je puisse mourir. C'est une certitude, mais son heure est incertaine. Eh bien, il dit c'est une possibilité esselante, hein, personne ne meurt à ma place, qui fait pâlir toutes les autres. Mais il dit c'est la seule manière, finalement, à partir de cet avenir, de récapituler sa vie, parce que c'est une pensée qui fait trembler, qui génère un affect, qui submerge le psychisme, l'angoisse, et ce serait ça qui donnerait une sorte de dynamisme rétrospectif où, au lieu de perdre mon temps, de m'éparpiller, je me dis, le temps est compté, donc autant bien l'employer. Alors, ça semble séduisant, mais ce rapport entre finitude et authenticité est loin d'aller de soi, puisque, et c'est ça que j'ai voulu creuser, puisque, indépendamment du fait que Heidegger considère le rapport à sa mort, qui est comme la fin du monde, comme le principe d'individuation, et ne fait pas tellement de cas de la mort d'autrui, qui pourtant, moi, me semble être le premier rapport qu'on a à la mort, et comme creusant l'existence, d'une certaine manière. Mais c'est pas là-dessus que je vais, c'est pas sur ça que je vais insister. Je vais plutôt insister sur le fait que la mort est d'abord le problème avant d'être la solution. Et là, je le dois, cette réflexion-là, je la dois en partie à un psychologue qui lui-même est mort très tôt d'ailleurs, qui a eu un prix important, Ernst Becker, dont le texte n'est pas traduit en français, Le déni de la mort, The Denial of Death. Il dit que finalement, il construit une anthropologie non freudienne en disant que l'invariant, c'est pas Oedipe, c'est la peur de la mort, le déni de la mort. Il dit que justement, la terreur que la mort génère pousse les êtres à refouler, réprimer cette terreur. Et c'est ça qui fait leur malheur. C'est complètement contre-productif. C'est un coût social, politique, psychologique majeur. Il dit cette répression de la terreur de la mort et du sentiment d'abandon qu'elle génère conduit non seulement à l'addiction à la consommation, au présentisme, mais à des comportements de polarisation, à une violence, à une agressivité, et même à rechercher une sorte d'immortalité par procuration. Comme on sait que on n'aura pas forcément une immortalité, on n'est pas des héros, et bien on va suivre des êtres qui nous feront croire que, eh bien, en achetant ça, en faisant ça, en votant pour eux, on serait, on participerait finalement à cette immortalité. Donc, Ernst Becker souligne le fait que pendant longtemps, et là il a raison, la peur de la mort a été accompagnée, soulagée, compensée par les religions qui faisaient penser qu'il y aurait une vie après la mort et puis qui, justement, poussaient à avoir un comportement charitable, modeste, hein, pour ne pas dire humble. Il dit donc, avec aujourd'hui, eh bien, il est mort, je ne voudrais pas dire de bêtises, enfin, c'est un texte donc qui est quand même très contemporain. Hein. Il dit aujourd'hui, les êtres humains sont seuls avec ce sentiment de radical abandon, avec cette terreur de la mort. Et moi, j'ajouterais, surtout dans un monde où chacun se sent plus ou moins jetable ou substituable. Ou, pour parler comme Hannah Arendt, dans le troisième tome des origines du totalitarisme, elle disait les humains, ils peuvent se sentir superflus. Et quand les humains se sentent superflus, qu'ils ont le sentiment de n'être que des producteurs ou des consommateurs, ils sont dans la loneliness, dans la désolation, qui n'est pas la solitude, qui est vraiment le sentiment de pas d'être un pion anonyme dans un rouage qui vous broie. Et ils deviennent vulnérables aux solutions autoritaires et totalitaires du pouvoir qui survivront à Hitler, qui survivront à leurs manifestations historiques. Le totalitarisme, homme entreprise de domination totale, étant un phénomène lié aux cultures de masse et à cette perméabilité de l'être contemporain en raison de sa désubjectivation au nationalisme, à l'antisémitisme, au totalitarisme. Très actuel, évidemment, elle est géniale et très, très profond. Et donc moi, comme je suis obsédée par ça, parce que dans ce livre, justement, moi je voulais m'interroger sur le fait qu'il y a plus qu'une crise climatique, il y a une possibilité d'effondrement et il y a en même temps la montée de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde. Pourquoi ? Voilà, donc il fallait pas seulement des pensées du rapport au tout et tout ça, il fallait aussi prendre au sérieux cette ambivalence de l'humain, capable du meilleur et du pire, mais aussi cette nécessité, notamment aujourd'hui, si on ne veut pas donner une réponse religieuse et idéologique à ces problèmes, aller dans le sans fond de l'existence, voir en face notre déréliction et voir comment on peut non pas fabriquer un récit par quelqu'un qui dirait « voilà, moi j'ai le grand récit », où on retomberait dans les illusions, mais au contraire refuser l'illusion, voir en face et apprendre à traverser la négativité. Ça, l'existentialisme. L'existentialisme écologique en remet une couche parce que traverser la négativité, mais c'est pas le néant, c'est la mer. La mer à la fois infinie, maternelle, en même temps effrayante, la vie, la mort, l'immémorial, la mort. Et comment apprendre à traverser la négativité, les émotions négatives que suscite la conscience que nous avons non seulement de la possibilité de l'effondrement, mais la conscience que nous prenons de l'incapacité de notre modèle de développement à produire des solutions tenables à cette réalité. Parce que la possibilité de l'effondrement n'est pas seulement une menace pour notre vie, notre survie, celle de l'humanité et des autres espèces, ça pointe la précarité de notre civilisation. Ça veut dire que tout ce qu'on a appris s'effondrerait. Donc il faut prendre au sérieux le coup psychique, l'effondrement psychique lié aux changements actuels, en particulier lié à cette prise de conscience de l'effondrement qui est à juste titre porté par les écologistes. Mais il faut aussi donner aux êtres les moyens, les équiper pour qu'ils puissent traverser ça, le regarder en face et produire autre chose ou que des normes auxquelles chacun voudrait se soustraire ou des discours super sympas, de biographie écologiste, de liens avec les autres vivants, mais qui ne répondent pas à parfois ce besoin de sens et ce besoin d'exister au-delà de soi qui caractérise l'humain, qui est beaucoup plus compliqué que les animaux. C'est une amoureuse des animaux qui dit ça. Et là, vraiment, j'ai beaucoup travaillé, et je travaille beaucoup en ce moment aussi, sur cette répression aussi de notre vulnérabilité et d'un sentiment d'impuissance qui pousse souvent à nous surévaluer ou du moins à évacuer notre sentiment d'impuissance en déchargeant notre agressivité sur d'autres plus vulnérables que nous ou en pensant que justement certains êtres sont bons à manger, bons à tuer. Ça nous permettrait de ne pas faire partie de ceux qui justement sont tués. C'est vraiment pour moi l'agressivité, il y a un lien entre la répression de sa finitude et finalement la culture de mort, ce que j'appelle la culture de mort, qui est la nôtre, dont le massacre des animaux est une des figures, puisque c'est un massacre légal justifié chaque jour partout dans le monde, et en plus personne ou pas beaucoup en parle. Mais c'est vraiment l'idée, voyez, pour produire une théorie de la domination qui soit complète. Et domination, c'est pas seulement domination des autres, c'est prédation, c'est rapport de écrasé, contrôler, mais c'est aussi anéantir l'autre comme tel et anéantir ceux qu'on va altériser, hein, qui ne sont pas soi. Hein. Et moi, je trouve que la situation actuelle, la prise de conscience de l'effondrement, de la gravité du réchauffement climatique, la perte de biodiversité, mais également les guerres, le terrorisme, tout ça réactive notre angoisse de mort. Donc ça veut dire réactive aussi les stratégies de défense que nous usons pour nous protéger contre la terreur que la mort génère. Donc du coup, faut pas s'étonner si dans ces périodes-là, très anxiogènes, bah, l'écologie est détestée. Faut pas s'étonner si dans ces périodes anxiogènes, le complotisme, la bipolarisation ou le fait d'être très agressif, d'avoir des idées pour se rassurer, le fait de suivre des personnes qui font à croire qu'on a un destin grandiose, qu'on va baptiser le monde, eh bien, faut pas s'étonner si ça existe. Mais ce qu'il faut faire, c'est pas considérer que c'est une fatalité. Mais il s'agit d'essayer de voir comment les individus peuvent justement surmonter cette anxiété, arriver à la partager, à l'exprimer, au lieu de la refouler. Parce que quand elle est refoulée, comme je le disais, elle génère ces comportements contre-productifs dont le coût social, politique et écologique est immense. Donc comment faire de la peur de la mort une école de la sagesse et non l'école de la monstruosité, et justement, donc là, vraiment une réflexion sur le fait de traverser cette négativité pour, à la fois individuellement et collectivement, parce que c'est quand, justement, je reprends à Jan Patočka, qui est mort quasiment sous la torture, hein, eh bien, c'est un défenseur des droits de l'homme, tchèque, et il parle de la dissidence. La dissidence, c'est celui qui est assis à côté, hein, qui vit dans sa chair l'effondrement du sens établi, qui sait que le sens établi marche pas et qu'il vit dans sa chair parce qu'il est chassé, pourchassé, et il en mourra. Mais qui, justement, le fait d'être reconduit à la précarité de la vie, à la vie nue, dit-il, eh bien, ne donne pas naissance, ne donne pas envie d'adhérer au nihilisme, mais au contraire, à chercher un sens autrement. Il parle de la solidarité des ébranlés, de ceux qui, justement, ont vécu dans leur chair cet ébranlement ou cet effondrement du sens établi et qui vont le chercher, et qui vont essayer de le chercher, mais sans dogmatisme, sans chercher à clore le sens. Parce que bon, il y a toujours un lien fondamentalement entre l'indétermination du sens et la démocratie, qui est le régime d'institution du sens a posteriori, non à partir d'une idée figée, hein, mais a posteriori. Donc dans la démocratie, aujourd'hui, les gens ne l'aiment pas pour ce qui est sa valeur, c'est-à-dire cette idée d'incertitude et d'un sens qui n'est pas évident, qui n'est jamais acquis, qui est institué, réinstitué, pas définitif. Donc ça suppose d'encaisser, d'accepter l'incertitude, mais là, moi, vu les défis que nous avons, il y avait cette réflexion donc, sur la maturité psychique à acquérir pour justement échapper aux solutions autoritaires, totalitaires et à l'enfermement sur soi et au déni, voilà. Ah donc du coup, bon, il y a toute une réflexion aussi sur le lien entre, je dirais pas, cette conscience de la mortalité et cette aptitude à traverser la négativité et l'authenticité, non, mais je dirais et l'attestation, c'est-à-dire en reprenant cette formule à Ricoeur qui rappelle le mot en allemand Bezeugung, attestation, le lien entre Zeugnis, témoignage, et Überzeugung, conviction. L'attestation, c'est l'autonomie morale, c'est le fait de savoir ce qui compte pour moi, les valeurs, hein, ça vient de Valéré, santé, hein, le mot valeur, ce qui compte et ce dont j'aimerais dans ma vie me porter garante devant les autres. Vous voyez, c'est pas Sartre, hein, je suis ce que je fais, mais je me porte garante devant l'humanité quand je fais un choix, il a raison. Là, c'est un petit peu moins sûr de soi, moins volontariste, mais c'est quand même l'idée qu'au lieu d'être un quoi, je suis un qui. Parce que pour répondre, pour être responsable, eh bien, la responsabilité, c'est fort. Il faut savoir qui on est. Il faut dire « moi, me voici, moi », pas un « moi » quelconque. Et toi, qui es-tu ? Et l'idée de l'attestation, donc on voit qu'on est dans une philosophie qui demande aux êtres plus de liberté intérieure, pas moins de liberté intérieure, une liberté différente investie, liée à l'appel de l'autre, y compris de l'animal, à la capacité d'être renversé hein, par l'appel de l'autre. Mais c'est une liberté qui seule peut me permettre de voir ce qui est suffisant. Il y a un texte magnifique, très court, donc ça c'est bien, de André Gortz sur Éloge du suffisant, où le suffisant, c'est pas l'ascétique, c'est pas je prends pas beaucoup, hein, parce que c'est pas le côté un peu pauvre, étriqué. Le suffisant, c'est ce qui me remplit. C'est ce dont j'ai besoin pour vivre, mais qui me donne un certain accomplissement. Mais pour savoir ce qui est le suffisant, pas 36 voitures, pas ceci, cela, faut se connaître, faut avoir l'attestation, faut une connaissance de soi qui suppose également cette attestation et de se situer aussi dans un monde plus vieux, plus vaste que soi. Et d'avoir aussi, c'est l'idée aussi qu'une politique de la sobriété, comme le dit Bruno Villalba, ne peut se fonder qu'à partir de l'idée de limite, hein, limite planétaire, mais les limites aussi que chacun doit assigner à son bon droit au lieu du droit des autres, y compris des animaux, exister. Donc si on veut respecter dans notre modèle de développement les limites planétaires, il va falloir négocier des renoncements. Non pas les imposer, mais cela suppose, si on ne veut pas que ces renoncements soient vécus comme des sacrifices, ou alors soient décidés au dernier moment et que finalement ce soit une classe de personnes qui décide pour d'autres ce qu'ils doivent faire, il faut appeler chacun à savoir ce qui est suffisant. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, je travaille depuis plusieurs années maintenant, mais surtout depuis ces dernières années, encore plus depuis ce livre, à l'articulation entre la structure de la subjectivité et les structures sociales et politiques. Bien sûr, c'est pas sur les épaules frêles des individus que repose le destin de l'humanité, mais sans le travail nécessaire pour soi qui dépasse l'intellect, qui suppose aussi d'atteindre des couches archaïques du vécu, l'émotionnel, mais aussi plus que ça, l'imaginaire, etc. Et puis qui suppose une transformation, peut-être d'extirper justement cette crispation sur soi, ce narcissisme, dont Heinrich Fromm disait que si on s'en sort pas, on aura des catastrophes sociales et politiques. Donc tout ce travail-là, qui renvoie aussi à ce qu'Hannah Arendt disait quand elle disait que le fascisme s'expliquait par la perméabilité, par la désolation. Et si vous lisez les grands travaux qu'a fait dans les années 50 Adorno, il fait des enquêtes formidables hein, et montre que l'antisémitisme, le fascisme, c'est pas une réaction aux classes sociales, c'est vraiment lié à une désubjectivation, une expérience des frustrations et des désubjectivations. C'est très important. Donc voilà. Et l'existentialisme offre quelques ressources pour justement affronter ça. Le droit international de la mer, qui est mon dernier point, le droit international de la mer, je vais aller vite, hein, il a depuis les années 80, mais il a été surtout mis en place en 90, la CNUDUM, hein, c'est formidable, hein, il y a quand même eu des choses importantes, mais puisqu'on a voulu soustraire la juridiction exclusive des États à la haute mer. Alors que la zone économique exclusive, hein, qui fait à peu près 300 km des pays côtiers, les États peuvent exploiter les ressources comme ils veulent. Mais le problème, c'est que ce droit international de la mer, pour le dire vite, il aboutit à deux impasses. La première, c'est que concrètement, la mer, et ça vient de ses fondements qui sont chez Grotius, et je fais la genèse philosophique de ce droit international de la mer, eh bien, cette mer, elle est à personne, donc c'est un peu la loi de la jungle, hein, le dégazage en pleine mer, personne ne le voit, il y a une fragmentation du droit, on ne sait pas comment punir les auteurs de délits, hein, d'écocide, on dirait. Et puis, l'écocide, d'ailleurs, serait un progrès puisqu'il permettrait de requalifier en délit ces atteintes à l'environnement. Mais aussi, par exemple, vous le savez, hein, si un bateau français bat pavillon dans un pays, enfin, se fait immatriculer, hein, en fait, dans un pays où il n'y a pas de droit du travail, eh bien, il va payer les employés, je sais pas, 5 euros la journée, quoi. Donc, le droit de la mer est un droit... La mer, tous les drames sont invisibilisés, cachés, etc. Et puis, il y a un autre défaut, deuxième impasse, c'est que eh bien, si vous lisez les textes de la droit de la mer, et même en Europe, il y a de très beaux textes, hein, il y a vraiment une conscience importante, eh bien, on reste à une pensée instrumentale de la mer, et on juxtapose à cette pensée de l'instrumentale de la mer qui ne met aucune limite, finalement, à la surexploitation, sauf, bah oui, il faudra partager entre nous, les différents États, ok. Eh bien, on continue dans la tragédie des communs, et juxtapose à cette conscience, un impératif écosystémique mal défini. Donc, il y a des imprécisions, et du coup, c'est pour ça que moi, au lieu de parler du droit de la mer, je passe à une thalassopolitique qui suppose de ne plus séparer ce qui se passe en mer, ce qui se passe sur terre, les déchets terrestres arrivent en mer, etc. Mais surtout, de penser d'abord la mer, de reprendre le principe de l'unicité de l'océan et de sa présence sur les mers, de voir les terres comme des îles fragiles, submersibles, et de partir de la mer, et pas partir de la terre. Parce que le droit international, c'est comme le droit souvent, c'est un outil humain très humain, et dans le droit international, on n'arrive pas à dépasser ces contradictions qui viennent d'un rapport extrêmement instrumental à cet écosystème, dont on dit pourtant qu'on lui doit tout. Puisqu'il a des fonctions écosystémiques majeures de captation du CO2 et l'acidification de l'océan, qui est la septième limite planétaire aujourd'hui en train d'être atteinte, eh bien, est une menace pour notre survie encore pire que celle d'avant. Donc la mer devrait tourner dans la décade de l'océan, mais devrait être notre préoccupation. Mais au lieu de le dire comme ça en énumérant ses fonctions écosystémiques, hein, je le fais dans le livre, eh bien, il faudrait au contraire voir à quel point, finalement, nous lui devons tout. Et je ne vais pas redévelopper mes propositions, mais en conclusion, je finirai justement par les multiples dimensions de la mer que j'explore dans ce livre et la raison pour laquelle la métaphore s'invite si souvent dans ce livre, moi qui d'habitude n'use jamais de métaphore ou quasiment. Alors là, je voudrais vraiment vous dire que dans la genèse de ce livre, indépendamment du fait que j'étais en Hambourg et qu'il y avait une tempête terrible pendant plusieurs jours, vous voyez ce que c'est que d'avoir une tempête terrible, mais terrible, donc on se sent vraiment pas grand-chose, mais surtout je relisais Rimbaud et Saint John Perse, et c'est vrai que c'est la lecture des poètes, de Victor Hugo aussi, Les Travailleurs de la mer, de Virginia Woolf, qui m'ont rappelé, pour ainsi dire, que jusqu'à présent, j'avais parlé de la condition terrestre et oublié de penser l'eau dont nous vivons, mais nous ne pouvons pas vivre, et la mer qui est finalement notre planète est entourée de beaucoup plus d'eau, et puis sans parler de ce que je dis dans l'introduction, à savoir que la ressource en eau potable est extrêmement... Enfin bref, c'est une ressource très très rare et est menacée. Donc du coup, mais surtout, pourquoi la métaphore ? Eh bien parce que la métaphore, c'est pas une image, c'est pas une analogie. Comme le dit Ricoeur dans la métaphore vive, la métaphore... ajoute ou entrecroise à la signification donnée par le concept plusieurs significations et les affecte, il y a ces multiples significations infuses au cœur de l'expérience. Donc il y a vraiment dans la métaphore à la fois du vécu et de la pensée. Et pour parler de la mer, pour parler d'une ontologie liquide, pour parler de ce qui échappe aux frontières, à tout ce qu'on quadrille, pour inviter à un rapport au monde qui soit pas d'appropriation et ni instrumental, eh bien, il me fallait une langue qui échappe à ce qui, dans le concept, solidifie tout, quadrille tout. Il me fallait aussi la ressource de la métaphore et qui, en plus, fait s'entrecroiser quand on parle de flottaison pour le projet. Chacun dans sa vie, comparer sa vie à un voyage où on est quand même pris en charge et on ne sait pas trop où on va. Il y a aussi l'idée, et puis j'ai trouvé également dans beaucoup de romans, notamment chez Duras, beaucoup de... qui était vraiment une écrivaine de l'eau, mais aussi une manière de penser le désir et l'invasion de l'inconscient en le nommant par des métaphores aquatiques et que je parle. Et puis bon, la mort également aussi, comme submersion. Il y a énormément de suicides par submersion en littérature, chez Duras, chez Hugo, évidemment Virginia Woolf, enfin etc. Et donc la poésie et la métaphore singulièrement ont été une ressource inspirant la pensée. Parce que les philosophes ont peu parlé de la mer, et comme dirait Bergson, ils solidifient le réel, quoi. Ils ont tendance à homogénéiser, c'est normal, le concept, ça saisit les sens et oublie un petit peu le mouvant et les singularités. Alors que, donc du coup, l'écriture de ce livre était lié à cet entrecroisement de la pensée et du vécu grâce aussi à la métaphore et à ce qu'elle opère, qui est une manière de voir comme, qui est donc une expérience. Alors, de fin de la conclusion, moi, si vous voulez, ce que je voulais, c'est faire de la conscience aiguë de notre déréliction, du courage consistant à regarder en face la situation dans laquelle nous sommes et qui ne menace pas seulement notre vie, notre survie, mais qui atteste aussi la précarité de notre civilisation et de la démocratie, je voulais montrer que l'existence écologique peut en faire une force, donc l'occasion d'une transformation personnelle et collective, d'une émancipation, d'un arrachement à des habitudes de pensée obsolètes. Il y a aussi, dans l'existentialisme, j'ai parlé au début d'un courant, et c'est vrai que on a tous oublié ça, et de toute façon, moi j'étais pas forcément née, hein. Mais l'existentialisme était un courant intellectuel, mais aussi qui a inspiré beaucoup de pièces de théâtre, de créations symboliques. Bon, puis à l'époque, les gens, ils mangeaient existentialistes. Enfin, il y avait l'idée d'un mouvement social aussi, politique. Il y avait quelque chose comme une énergie. Et dans Les Lumières à l'âge vivant, qui était pour moi un livre particulier, enfin, je pense qu'il était assez abouti, et l'aboutissement d'une 15 ans quand même de réflexion derrière, qui était une proposition politique, hein. Il y avait aussi l'idée de... voir comment nommer une époque, hein, par ses défis, par aussi ses possibles, ses ressources, mais comment faire en sorte que justement on puisse renouer le lien entre la théorie et la pratique et permettre aussi donner une énergie pour changer les choses. Et l'existentialisme me semble avoir ce potentiel-là, parce qu'il associe la pensée et le vécu, la philosophie et l'art, accorde l'importance au style et lie un climat de la pensée qui, à la fois, prend au sérieux l'abîme que nous sommes pour nous-mêmes, l'abîme qu'est la mer, comme dit Victor Hugo, mais aussi qui parie sur la liberté, sur la responsabilité. Donc c'est ça, ce climat-là de la pensée, qui me semble important à une époque où, aussi, on veut aller dans le holisme, qui ne correspond pas, à mon avis, à notre société et aux défis que nous avons ici. Alors voilà, donc je vais finir. Donc moi, j'ai essayé, j'ai offert ce livre comme une offrande du sens, pour parler comme Patochka. J'ai suivi la nageoire argentée qui fend les eaux, hein, comme dit Virginia Woolf. Hein. Et je dis ça aussi parce que je pense à Paul Watson, hein, qui, vous le savez, est en prison. J'ai fait un article dans Le Monde il y a un mois, mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les articles aient beaucoup de... les tribunes aient beaucoup de poids, hélas, hein, ce qui me pose des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire en philosophie aujourd'hui dans un monde où, finalement, la parole, la pensée semble avoir relativement peu d'écho, du moins immédiat. Mais je finirai par, justement, un poème qui finit le texte, c'est Le cimetière marin, hein, donc à 7, hein, de Paul Valéry. Hein. Alors, vous savez, au début, c'est un texte sur la mort, hein, qu'il faut apprendre à pas domestiquer, parce qu'il en souligne la rugosité, il ne veut pas d'illusion, mais comme quelque chose qui peut donner, rendre sensible à la beauté. Donc, en fait, l'existentialisme écologique, ce serait vraiment opposer au ressentiment une gratitude à l'égard de la vie. Hein, pour parler encore une fois comme Hannah Arendt, qui dit que c'est un petit peu les deux solutions que nous avons à la modernité. Le ressentiment politique, vous voyez ce que ça veut dire, la gratitude envers la vie, on ne sait pas encore. Mais, enfin, moi j'ai une petite idée. Mais bon, je n'en parlerai pas ici. Alors, je vous lis donc Paul Valéry à la fin. Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme, ô puissance salée, courons à l'onde en rejaillir vivant. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie, rompez, vague, rompez d'eau réjouie, ce toit tranquille où picoraient des phoques. Je vous remercie.
Bon, bah merci beaucoup, Corinne, pour cette longue présentation palpitante. Ben voilà, c'est la parole à la salle maintenant. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions à poser ?
Oui, bonsoir, merci beaucoup. Moi, ce n'était pas une question, mais c'est juste quelque chose qui m'a fait sourire plusieurs fois. C'est que vous avez dit plusieurs fois, on arrive dans un monde plus vieux. Et moi, j'ai vu des gouttes, j'ai vu la brume, j'ai vu l'écume de mer, et j'ai trouvé ça très joli.
Oui, l'idée du monde plus vieux que soi, c'est Hannah Arendt, hein, qui, dans Conditions de l'homme moderne, c'est en 58, hein, donc après son grand effort, les trois tomes du totalitarisme, elle va chercher dans la condition humaine des ressources permettant de voir ce qu'on peut faire, sachant ce que nous savons après Auschwitz, comme elle dit, ce qui peut aider l'humain à résister à ça, au mal, quoi. Et c'est la naissance, d'être toujours neuf et imprévisible, qui sont la promesse de renouvellement du monde, qui signale le fait que la diversité caractérise la condition humaine, et donc que la démocratie est la seule réponse à la condition humaine. Donc c'est très beau. Et alors moi, j'ai travaillé un peu sur la naissance parce que dans ma philosophie de la corporité, si j'ose dire, chercher des structures d'existence à partir de notre corps, et, ben la naissance, c'est vrai, elle oblige. Et on est dans un monde qui ne nous connaît pas, qui est fait de plein de choses, plus vieux, plus vaste que soi. Et en même temps, ce monde doit faire de la place à la nouveauté. Et permettre aux nouveaux-nés d'inscrire des œuvres durables. Donc il doit aussi connaître les codes, connaître, avoir une éducation. Et ça, je trouve que c'est très beau, hein, cette idée, la naissance, donc ce monde plus vieux, plus vaste que soi. Et c'est vrai que c'est la mer, c'est l'infini. Hein. C'est vrai que toute personne, c'est banal, mais sur un bateau ou pas, enfin, la mer, c'est l'infini, c'est l'horizon, c'est... Voilà. C'est ça. Je trouve que on a tous dans notre vécu quand même cette expérience à la fois banale et extraordinaire, si on y réfléchit, de voir qu'on est tout petit devant l'immensité, l'eau, quand on est. Et c'est ça que j'ai voulu traduire en concept philosophique, disant qu'il y avait peut-être une vérité là-dedans, sur notre condition, qui pouvait renverser notre tendance à tout voir à partir de notre rivage, hein, et à tout prendre, et à considérer que tout ça, on construit, tout ça, c'est solide. Bah oui, mais vous avez vu, la Valence, là, ça s'effondrait. Hein, ça peut prendre l'eau, ça peut être submergé. C'est un peu ça. Et pour moi, le naufrage, c'est ça, les submersions, les villes qui peuvent être submergées, il y en a en France aussi beaucoup, hein, mais c'est aussi le naufrage politique. Les chirurgiaques, le totalitarisme. Je relisais ces temps-ci Sébastien Hafner, Journal d'un Allemand. Hein, vous savez, ce texte qu'il a écrit, il n'était pas juif, hein, mais pendant le nazisme, il est parti, et qui a été retrouvé après sa mort par ses enfants. Et il montre bien que, bon, au départ, le nazi n'était pas très suivi. Hein. Il a fallu assez peu de mois pour que ça prenne. Donc c'est facile de perdre un pays, hein, c'est facile, c'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, et bon, il y a beaucoup de livres répétitifs, hein, c'est pas gentil de dire ça, mais c'est vrai, surtout en écologie. Moi, j'en reçois pas mal, je les donne à ma voisine, parce que je sais plus où les mettre, ils se répètent trop. Mais je trouve que ce qu'on n'arrive pas assez à penser, c'est pourquoi, alors qu'on sait tout ce qu'on sait, on le fait pas. Ni individuellement, ni politiquement, ni nationalement, au niveau européen. Enfin, faut bien comprendre les ressorts, les obstacles à ce changement, qui sont pas seulement conscients, ils sont aussi inconscients, et les leviers du changement. Et je trouve que, de même, bon, les grands récits, alors chacun veut faire son grand récit, ben moi les grands récits, j'aime pas, hein, parce que l'idéologie, mais... Et puis un grand récit n'est jamais notera la difficulté d'exister, la solitude. Et dans la solitude, il y a aussi un secret et beaucoup de force, beaucoup de choses profondes. L'art, c'est lié à la solitude. Je relisais dans le train cette magnifique auteure et philosophe à la fois, Maria Zambrano, hein, qui a quitté l'Espagne franquiste, qui a vécu pratiquement toute sa vie en exil. Et dans ses textes, en exil des années 40, elle parle de tout ça, et c'est vraiment voilà. Donc voilà.
Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, ça me touche par rapport aussi à des réflexions que j'entends beaucoup aujourd'hui autour de l'éco-anxiété ou les réflexions sur l'effondrement du monde, qui questionnent l'intérêt de ce renouvellement du monde, sur le risque de mettre au monde des enfants, par rapport à ce qu'on va pouvoir leur offrir, par rapport aux générations futures. J'aurais voulu un peu entendre votre réflexion autour de ça.
Alors, l'éco-anxiété ou le risque de mettre au monde des enfants ?
Lié, quoi.
Lié.
Il y en a d'autres,
oui, alors,
mais en tout cas, celle-là, quoi.
Moi, l'éco-anxiété, dans l'espérance de traverser de l'impossible, j'avais dit que... Enfin, j'avais écrit... Je n'avais pas écrit comme ça, mais c'était un peu ce qu'on peut résumer, quoi. C'est que les personnes qui souffrent d'éco-anxiété sont des sentinelles, quoi. C'est des gens qui donnent... lancent à la face du monde... l'opposé du déni. Ils disent non, arrêtez de dire que tout va bien, Madame la Marquise, et que rien, non. Et puis qui envoie à la face du monde le fait que c'est un coup psychique de voir un pays qui, un monde qui peut s'effondrer. C'est un peu une part d'eux-mêmes qu'on les prive aussi d'avenir. Et donc, mais évidemment, l'éco-anxiété qui vient de l'amour du monde, qui a une noble origine et du vœu que l'humanité soit enfin à la hauteur. Donc déjà, ça faut le dire. À la différence des dépressions qui peuvent contenir une dialectique destructrice, être née d'un manque d'amour de soi, qui se commue souvent en amertume, en ressentiment ou en haine des autres. Mais l'éco-anxiété liée à l'indignation, sentiment d'impuissance, de peur, à la colère, peut faire souffrir et peut être dangereuse, comme toute dépression. Et donc, il est important que les personnes apprennent à la partager pour voir qu'ils ne sont pas tout seuls à la vivre. Et aussi, avec toutes les émotions fortes, comme la colère, la colère, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise comme ça, hein. L'indignation, c'est important de voir aussi ce qu'elles traduisent, ces émotions, la pensée qu'elle recèle, et justement cet amour du monde, ce vœu que l'humanité soit enfin à la hauteur. Donc c'est quelque chose de positif qui produit cette souffrance, mais au moment, à bout d'un certain temps, il est important d'en faire quelque chose, parce que la nature a horreur du vide, et le psychisme humain est assez doué pour commuer en toute puissance son sentiment d'impuissance, ou en tyrannie du bien sa difficulté. Ses souffrances. Donc là, moi j'avais non pas fait une méthode, hein, loin de là, ni des recettes, mais insister sur le partage, l'apprentissage de la négativité pour justement tenir un peu à distance, parce que la dépression, c'est toujours, c'est un peu ça, c'est un peu le démon de la dépression. Je joue sur le mot enfermement. La dépression est un enfermement. Quand on souffre intensément, au bout d'un certain temps, on voit le monde qu'à travers les lunettes de son désespoir. Et on ne voit pas ce qui peut être beau. Or, et là, c'est important de voir qu'il y a aussi des réponses, locales ou ailleurs même, ou des personnes, ou des associations, ou des groupes qui montrent que des choses sont possibles et que des initiatives vertueuses pourraient réouvrir le possible. Donc ça, c'est voilà pour l'éco-anxiété, voilà pour la dépression, dont on voit que c'est une souffrance liée au fait de ne plus pouvoir configurer l'avenir, de sentiment de plus voir l'avenir, de plus avoir d'horizon. Et parce que justement, l'humain est un être qui ne peut pas se satisfaire du présent. Alors, moi, je trouve qu'il y a encore une fois chez Hannah Arendt qui a traversé des épreuves terribles, puisque juive allemande, bon, elle a échappé de pas grand-chose au camp, parce qu'elle était en France, comme ça, à un camp, un moment, bon. Mais qui a une colère énorme, comme le dit Jaspers. Quand elle a, 50-55 ans, il dit elle a perdu sa grosse colère, sa formidable colère. Et elle dit « J'ai mis longtemps à aimer le monde. Longtemps, je ne l'aimais pas. J'ai mis enfin. » Alors, après ces trois tomes des origines du totalitarisme, sans doute. C'est une réponse. Et au fracassement qu'a généré le national-socialisme. Mais il y a un moment que moi j'aime beaucoup, dont je parle dans le livre que je suis en train de finir là, c'est le moment où elle dit « la modernité a comme choix le ressentiment à l'égard du donné ou la gratitude à l'égard du donné, ou la gratitude pour le donné ». Et ça c'est très fort. La gratitude pour le donné, c'est justement... même après les nuits liées au désespoir, au fascisme, chez Zambrano, c'est pareil. En plus, Zambrano, elle a vécu la pauvreté, l'exil, les deuils, enfin bon. Eh bien, les gens qui parlent d'espérance, souvent, sont des gens qui ont une grande expérience de la dépression et des nuits politiques et tout ça. Eh bien, elle dit à Arendt, le gratitude à l'égard du donné, c'est de se rendre compte, la chance qu'on a d'être dans un monde où... il y a de la pluralité, il y a des êtres différents qui peuvent amener des choses neuves, différentes. C'est fort, ça. Alors que le ressentiment, c'est vraiment le fait de ne pas supporter ce qui est différent, ce qui est pluriel, ce qui est autre. Et ça, je trouve que c'est fort. Alors, pas vouloir mettre au monde des enfants dans le monde qu'on est, qu'on a. Oh, ça peut se comprendre, pourquoi pas. Moi, je dirais aussi, mais quels êtres, quels jeunes, enfin, quels nouveau-nés on met dans ce monde ? Je veux dire, et quelle éducation on donne ? Moi, quand je vois un bébé, je vois un vegan en puissance, qui viendra, hélas, pas vegan. Mais j'y peux rien, j'y peux rien. J'adore les bébés, d'ailleurs, parce qu'ils parlent pas vraiment, donc il y a un côté... Bon, quelle éducation donc là, moi, je pense que la question, elle est là. C'est que on est peut-être dans un monde où l'éducation qu'on donne, les nourritures qu'on donne aux êtres nouveaux ou jeunes sont pas de très bonnes nourritures, en tous les sens du terme. On leur donne beaucoup de poison. Donc, est-ce qu'on les équipe pas ? Et au contraire, on va nourrir le ressentiment, le narcissisme... du berceau aux grandes écoles, il y a des narcissiques, des cerveaux sur pattes, complètement narcissiques, quoi, et complètement nuls sur le plan humain. On a un paquet qui écrivent même des livres. Bon, mais c'est vrai. Donc, du coup, c'est ça. Moi, c'est plus ça. Bon, les gens qui n'ont pas envie de faire d'enfants, bon. C'est vrai que c'est difficile de faire des enfants. C'est quand même la chose peut-être la plus difficile. Mais Mais c'est surtout cette question qui est une question fondamentale. Et puis aussi, on a des guerres en ce moment, et la guerre, c'est terrible, parce que la guerre, ça ôte aux plus jeunes, bah, tout présent, tout avenir, souvent. En France, j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que j'ai rejoint la Commission nationale des droits de l'homme, qu'il y avait 3000 enfants qui dormaient dehors. C'est énorme. Enfin, moins de 5 ans, enfin, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'un enfant, si dès le départ, on lui donne des conditions de vie terribles où il est, où la guerre le prive de quasiment tout, de la peur, et qu'il a, c'est quand même terrible, quoi. Là, on fabrique aussi le ressentiment. Donc là, on est dans une période... moi, plus va, plus d'ailleurs, je trouve... qu'une cause nationale ou européenne, enfin mondiale importante, ça serait l'enfance. Les animaux et l'enfance. Les innocents. Et voilà, donc ça... mais je pense que... alors, il y a une pluralité d'approches. Hein, en écologie, je crois qu'il faut vraiment saluer la pluralité. Les récits bio-écologiques, enfin de biographie écologique, c'est important. La réflexion sur les normes est importante, bien sûr. La réflexion, moi j'ai fait plusieurs travaux qui sont différents. Mais là, depuis quelques années, vraiment, je me suis dit qu'il manquait quelque chose qui était... la prise de conscience quand même justement de l'ambivalence de l'humain et la réconciliation. Alors, il faut rendre hommage à la complexité de l'humain. Voilà. Qui peut être terrible, qui doit être éduqué, qui doit, comme disait Kant, c'est un peu un bois tordu, il faut quand même un peu le redresser, quoi. Et qui peut faire aussi du bien. Et c'est la fin hein, du système totalitaire, Arendt, où elle dit des choses terribles sur la domination totale. Tout ça peut recommencer. Elle dit mais peut y avoir un nouveau commencement. Voilà. C'est... Bon. Donc, du coup, mais la question, c'est chacun, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui où on a sur. Quand on est adulte, quoi, on a vraiment, on se réveille dès le matin, on se dit, mais bon, il y a ces guerres, il y a une possibilité d'embrasement militaire, en fait, en ce moment. Il y a, bon, l'écologie, ben, qui est quand même pas très... beaucoup en parlent, mais concrètement, elle n'est pas trop aimée. Politiquement, ça ne va pas trop bien. Puis il n'y a pas de réponse suffisante. Il y a un climat social qui est quand même inflammable. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Donc, bon, ben. Moi, je trouve que nous avons des ressources, y compris en Occident, pour réveiller ce qui dormait. Zambrano, encore une fois, quand elle parle d'espérance, elle dit. C'est l'idée d'un passé meilleur changé en avenir. C'est-à-dire qu'on peut reprendre dans le passé des possibilités ou des promesses qui n'ont pas été tenues, mais les reprendre un peu. Ou chez Ernst Bloch, quand il parle de trouver dans le passé les germes du futur. Donc il y a l'idée que, voilà, on a aussi les moyens de s'en sortir. Voilà. Donc, mais bon, là, donc, je n'ai pas répondu tout à fait à votre question. Je vous livre seulement ces remarques.
Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ?
Bonjour. À un certain moment, vous parliez de la démocratie comme réponse, mais sous quelle forme ?
En quel sens, sous quelle forme ?
Ben, on a notre démocratie actuelle en France ou ici, avec les élections et tout, les partis.
Ah oui. Démocratie élective, oui. Oui, alors, mais la démocratie, c'est toujours, elle est jamais complète. la démocratie, les théories délibératives dans les années 80, mais avant par Habermas, les procédures participatives ont été des tentatives pour répondre, pour pallier les défauts de la démocratie représentative où les individus ont le sentiment d'être dessaisis de leur souveraineté. Bernard Manin, qui est mort il y a 2 jours, disait bien qu'on est plutôt dans une oligarchie, parce que voilà. Mais je crois que la démocratie, c'est quand même plus qu'un ensemble de principes, ou du moins des principes qui soutiennent, dont il faut rappeler d'ailleurs les invariants et ce qui sous-tend cela. Mais c'est un mode d'existence qui répond à la pluralité. Il n'y a pas l'idée d'un bien figé, déterminé de manière arbitraire ou par un seul. Alors que la démocratie doit être réorganisée autrement, avec une place à l'expérimentation, ça, tous les gens qui travaillent, et je l'ai fait moi-même dans Les Lumières de l'âge du vivant, sur John Dewey, un peu, voient comment on pourrait la revigorer, la revitaliser. Parce que c'est vrai que là, dans ses manières d'être, elle est un peu vieillotte. Et en même temps, elle ne se soutient pas assez. Moi, je suis étonnée. Je lisais il y a quelques mois un livre, un Américain qui étudiait les différents partis politiques, alors en Amérique du Sud, là où il y a aujourd'hui l'extrême droite au pouvoir, et il a parlé du Parti républicain. Et si, il faisait des pages et des pages sur les garde-fous que constituaient les partis traditionnels et le Parti républicain au tout début, qui faisaient que des personnalités comme Trump, il y en avait. Mais elles étaient écartées à l'avance. Les institutions fonctionnaient de telle sorte que les autocrates étaient écartés en amont. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui existaient. Moi, je suis très étonnée de la manière dont nos démocraties aujourd'hui acceptent des choses, des gens qui n'ont pas leur place dans les institutions démocratiques. Ils peuvent avoir leur place à gesticuler à la télé. Ça, ils rejoindront certains intellectuels extrémistes, il y en a de plus en plus, mais ils n'ont pas leur place dans une assemblée. Parce qu'en démocratie, il y a un jeu, il faut accepter les règles du jeu, il ne faut pas traiter les gens d'ennemis de la nation, il faut accepter les élections, il y a des comportements qui ne sont pas... Voilà. Et du coup... moi je pense là encore une fois, mais je vais pas trop en parler. Moi j'écris un livre, j'ai fini un livre un peu avec ces questions-là. Mais je pense que il y a aussi une ignorance de ce qu'est la démocratie qui est assez crasse aujourd'hui. Et quand on va autour de soi, dans sa famille parfois, on entend des gens qui disent non, aujourd'hui il faut un pouvoir fort. Non mais vas-y, va en Chine, vas-y. Où on va... Et ils ne voient pas ce que c'est qu'un état de droit. Les mots semblent usés, comme si c'était devenu des étiquettes et on ne voyait pas ce qu'il y avait derrière et tout ce qu'il a fallu faire pour arriver là. Donc là, il y a aussi un travail à faire. Mais il est clair que l'écologie suppose de transformer la démocratie, ça c'est vrai, parce que les enjeux globaux à moyen terme et pas forcément visibles à œil nu, qui sont associés à l'écologie et qui supposent un peu de science parfois, supposent quand même de faire entrer le long terme, le moyen terme ou le climat au cœur des institutions qui sont un peu présentistes. Donc il y a des tensions entre la démocratie représentative qui consacre les intérêts immédiats des hommes actuels et la prise en compte des intérêts des animaux, de l'écologie, etc. Donc, mais ça, il y a eu des travaux dessus. Dominique Bourg, mes premiers travaux en 2011 portaient un peu là-dessus. Donc là, il y a eu plein de choses. Il y a plein de choses qui ont été dites. Il y a plein de redites maintenant. Moi, si j'étais dans l'édition, j'en publierais pas beaucoup. Tellement, je serais terrible. Parce qu'il y a tellement de redites. Mais il y a eu plein de travaux. Après, la grande question encore, c'est pourquoi toute cette intelligence et ces théories et ces propositions concrètes, puisque quand je parle de Dominique Bourg, c'est quand même quelqu'un qui était à l'époque où c'était pas mal, à la Fondation Nature et Homme, dans le Conseil scientifique, qui avait fait plein de choses, qui est une vraie machine à organiser des choses et à bouger, à aller voir les politiques, etc. Et il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu énormément de traduction concrète de ces belles idées. C'est ça qui est toujours là. Là, franchement, si quelqu'un me dit pourquoi, alors qu'il y a énormément d'intelligence et de rapports, hein, moi, j'ai fait beaucoup de choses pendant quelques temps, quelques années sur la question animale, et je peux vous dire, en fait, des rapports, il y en a eu plein, hein, qui offriraient des solutions, des pistes communes, mettant d'accord, d'ailleurs, des gens très différents, véganes, éleveurs, etc., sur au moins à avancer sur des points qui seraient bons pour tout le monde. Tout le monde n'irait pas aussi loin que moi je le voudrais, mais enfin, il y a des accords possibles sur fond de désaccords, comme je disais à l'époque. Et vraiment, le mot d'expérience de ces dialogues avec des gens, même dans l'agro-industrie, c'est qu'il y avait des possibilités d'entente sur au moins des choses qui changeraient. Mais ça passe pas, on sait pas, il y a des rapports, on se demande, ils finissent souvent dans les bureaux des politiques, et puis pour être justement depuis peu de temps à la Commission nationale des droits de l'homme, je vois bien les excellents rapports et propositions de loi et d'amendements qu'il y a. Et par des gens qui savent de quoi ils parlent, dans les prisons, sur l'enfance, et d'autres qui savent faire des lois, ce que moi je ne sais pas, hein, qui savent. Et des gens qui vont les discuter ou demander des entretiens auprès de tel ou tel ministre, du Premier ministre, et ça marche pas. Donc là, il y a aussi, c'est vrai, une classe politique en ce moment qui est quand même pas à la hauteur. J'aime pas dire ça, mais c'est clair. Parce que les rapports, ils existent. Là, sur les prisons, sur les trucs, ou en plus, la Commission des droits de l'homme, ça dépend de l'ONU qui voit si le pays est au clair sur ces sujets-là, il ne l'est pas. Donc, quel est le rôle des intellectuels dans un monde où, en plus, les médias deviennent quand même... moi, je vais dire quelque chose de terrible, mais enfin, le dimanche soir, quand j'allume ma télé, je vois la tête de Luc Ferry, ça m'énerve, quoi. J'en ai marre d'entendre des conneries pareilles, hein. Mais donc il n'y a pas. Moi je ne sais pas. Ça, je ne sais pas les passages, les médiations entre toute cette intelligence produite et les personnes aux manettes. Je ne sais pas. Peut-être il faut encore un peu de temps. J'en sais rien. Enfin, je ne sais pas pourquoi il y a ces blocages. J'avoue que ça, si quelqu'un peut m'éclairer. Je suis demandeuse.
Bon, moi, je pense que nous allons clôturer là, après ces applaudissements. Ben, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici et à la prochaine, sûrement, pour une conférence Etopia. Au revoir.
C'est Delphine Massé qui animait cette soirée. Elle recevait Corinne Peluchon, venue présenter son ouvrage « L'être et la mer pour un existentialisme écologique ». Cet enregistrement a été réalisé le 4 novembre 2024 au Forum D du Campus de la Plaine de l'ULB. Une soirée proposée par Etopia, Centre d'animation et de recherche en écologie politique.